Bonjour, aujourd'hui, cirrhose, sinistrose avec une goutte de pinot noir.
Je vais vous parler de cuisine solidaire et d'huîtres un petit peu trafiquées.
En ce beau dimanche, je me suis extrait de mon duvet pour vous voler dans les plumes.
Pour quitter ce magnifique millésime 2020, pour basculer en 2021, je vais vous proposer des petits remontants pour des grosses descentes.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster un plateau de fête pour notre toute dernière émission de l'année 2020 avec des intervenants dont vous avez peut-être reconnu les voix et pour cause, ils m'accompagnent à ce micro chaque dimanche, ce sont quelques-uns de mes chroniqueurs et de mes chroniqueuses dont on va déguster par ordre d'apparition Antoine Gerbel, Elvira Masson, Arnaud Daguin et Dominique Hutin. Bonjour les copains.
Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver pour célébrer ensemble, chers amis, la Saint-Sylvestre avec quelques jours d'avance, hein, vous l'avez peut-être remarqué. Mais on est aussi réunis pour dresser avec malice et conviction un bilan gourmand de 2020, une année définitivement pas comme les autres. On va voir comment cette année 2020 a justement impacté la scène culinaire et gastronomique. Les actus qui ont marqué la gastronomie, des coups de cœur à boire, des lectures nourrissantes, les recettes aux petits oignons qui pourraient réenchanter vos vacances de fin d'année, des restaurants aussi qui se réinventent. On vous sert sur un plateau le meilleur à boire et à manger. Retrouvez d'ores et déjà nos infos, le podcast de l'émission et le podcast de toutes nos chroniques sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Bon, 2020 fut un millésime orageux, pour filer la métaphore bachique, voire totalement cataclysmique. Quelles actualités dramatiques ou drôlatiques, quelles lueurs d'espoir ont aussi marqué la scène culinaire et gastronomique pendant l'année écoulée. Notre réalisatrice Laurane Thomas nous a concocté un petit cocktail spécial 2020 et on le commande, si vous le voulez bien, juste après, tous ensemble.
J'ai donc décidé la fermeture à compter de ce soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés.
Plutôt que de jeter leur stock, ils ont décidé de concocter des petits plats pour le personnel soignant du CHU de Lille.
On fait juste ce qu'on sait faire. Là aujourd'hui, on est dans une situation où si on se serre pas les coudes, je pense qu'on le fera jamais.
Jusqu'à nouvel ordre.
Trois gros, c'est vraiment l'ADN de Roanne. C'est un coup dur pour la ville. Il va manquer à beaucoup de monde et c'est très triste.
Et quand le piquant du vin arrive...
Il est surnommé le pape des papilles. Jacques Cuiset, le goût juste. Le meilleur est au plus proche du terroir, sans triche ni artifice.
Marc Menot, c'était l'Espérance, le restaurant qu'il a dirigé pendant 40 ans à Saint-Père-sous-Vézelay.
Et je ne peux pas vous dire avec certitude que nous rouvrirons les bars et les restaurants le 20 janvier. Ce serait malhonnête de ma part.
Ambiance. Quelle année de... Bon. Et pourtant... Les graines de vie poussent parfois sur le fumier. Vous êtes bien placé pour savoir, chère Elvira Masson, puisqu'à ce micro, vous avez relayé toutes les initiatives solidaires depuis le début de cette crise sanitaire qui ont marqué le milieu de l'alimentation et de la restauration.
Je les ai sûrement pas toutes relayées parce qu'il y en a eu tellement.
Ouais.
Donc du coup, effectivement, il faut vraiment adresser un énorme coup de chapeau à tout ce qui a été fait par les associations qui sont mobilisées dès les premiers jours du confinement au printemps dernier. Pour proposer des repas aux soignants avec une énergie, un enthousiasme et sans attendre, quoi. Ils étaient sonnés, mais ils ont foncé, aussi bien pour les soignants que pour les précaires. Je pense notamment à l'association Écotable, qui a réussi à fédérer sous son ombrelle, en quelque sorte, plein d'autres associations, notamment les marmites volantes, le réchaud, et qui est parvenue ainsi à faire envoyer jusqu'à 1 500 à 2 000 repas par jour à Paris, mais il y a plein d'autres initiatives de ce genre à Marseille, à Lyon, un petit peu partout en France. Mm-hmm. Des repas préparés avec des produits issus d'une agriculture locale, paysanne, en circuit court, des gros volumes, qui prouvent aussi qu'un autre type de restauration collective que celui qu'on nous impose aujourd'hui est possible. Alors j'ai cité le réchaud parmi les associations entre guillemets hébergées par Écotable. Réchaud, c'est refuge, chaleur, optimisme, et c'est un projet solidaire monté par des cuisinières professionnelles. On avait reçu Vanessa Crissev, l'une d'entre elles, qui était venue nous en parler. Un magnifique livre paru aux éditions de l'Épure documente une aventure géniale, pilotée par le réchaud à l'automne 2018 à Arras. Pendant 10 jours, plus de 3000 personnes se sont retrouvées au cœur de ce grand réchaud, unies par l'envie de communier autour de repas préparés par des chefs étoilés ou non, Olivier Rollinger, Florent Laden qui a préparé pour l'occasion un magnifique porridge de petite épeautre à la courge et au pois chiches. Moi, c'est à peu près tout ce que je peux aimer.
On connaît vos goûts culinaires.
Des personnes en exil venues du Soudan, d'Afghanistan, des cuisines à quatre mains, des cuisines tous ensemble, un grand banquet, des associations présentes, des artistes, des étudiants, étudiantes, des bénévoles, un super mélange de savoir-faire et de recettes du monde entier qui ont pris vie lors de cette première édition à Arras de ce magnifique festival de cuisine solidaire. Et le livre documente, c'est un immense format avec des très très grands portraits et des recettes. Je vous dis, on a des recettes un peu partout dans le monde et des recettes de chefs. C'est un magnifique ouvrage. Qui paraît aux éditions de l'Épure, Le Grand Réchaud, histoire d'une cuisine fraternelle.
Ce livre est superbe et il est grand dans tous les sens du terme, y compris par son format impressionnant.
Et il fait chaud au cœur.
Et il raconte une très belle aventure. Saluons aussi évidemment tous les restaurateurs, vous l'avez dit, il y a eu les associations et les restaurateurs bien qui, sûr, malgré leurs propres difficultés, ont mis la main à la pâte. Grand élan de solidarité qu'on a vécu depuis le début de cette crise sanitaire. Antoine, évidemment, bon, on sait que 2020, ce fut aussi de grandes pertes pour le milieu du vin et de la gastronomie. On a perdu deux de nos grands chefs 3 étoiles, Pierre Troisgros à Roanne en septembre dernier, Marc Menot au début du mois de décembre. Nous avons rendu hommage dans notre émission On va déguster à ces grands hommes de la gastronomie. Rendons aussi hommage à un éminent ambassadeur du vin, dont la disparition le 6 décembre n'a pas vraiment fait les gros titres.
Et oui, François Régis, la France a perdu en 2020 l'un de ses plus grands épicuriens. Oui, j'ai fort sur le terme, grand épicurien, œnologue aussi. Le monde du vin et plus largement le monde du goût. Et encore plus précisément, le monde du goût juste a perdu son pape. Un pape inconnu du grand public, c'est vrai, et qui a pourtant marqué bien au-delà du monde du vin. Jacques Puisat est parti à 93 ans. Une carrière longue et riche qui a débuté comme œnologue en Touraine dans les années 60. La Touraine qu'il n'a jamais quittée, comme Rabelais. Comme Jean Carmet. En 1976, il fonde l'Institut français du goût, devenu l'Institut du goût que préside aujourd'hui Natacha Polony. Cet institut a été créé dans le sillon des classes de goût qu'il avait créées pour enseigner dans les écoles aux enfants à goûter comme on apprend à lire et à écrire. Il laisse l'histoire de sa technique d'analyse sensorielle, très important. C'est enseigné à travers le monde du goût. C'est une approche plutôt du corps gustatif. Vous savez, on parlait beaucoup d'arôme. Et ben lui, il dit non. Concentrez-vous sur votre goût en bouche. Sa conviction, l'individu ne peut s'émanciper que s'il prend conscience de ce qu'il se passe en lui lorsqu'il se nourrit. Au fil des ans, il est devenu le chantre du goût et du bien manger, l'homme de science de l'être qui donna des lettres de noblesse aux accords mets et vins. J'ai eu la chance d'écouter et d'échanger souvent avec ce personnage qui animait une grande dégustation. Il s'appelait Paulet des vins de Loire à Chartres, chez les Jalras. Et tout particulièrement les vins de Loire, c'est vrai qu'il les aimait beaucoup puisqu'il vivait à Chinon. Ses aphorismes sont célèbres, on va citer le plus célèbre. Un produit doit être conforme à la gueule de l'endroit et aux tripes du producteur. Il ajoutait surtout, chaque repas est un moment que vous ne retrouverez jamais. Pour moi, il restera toujours l'homme qui disait « Quand vous mangez, quand vous buvez du vin, si vous ne mettez pas des mots, même très simples, sur le ressenti que vous procurent les aliments ou le breuvage, eh bien, ni ce poulet, ni ce poisson, ni ce cabernet franc n'a existé. C'est donc un devoir de nommer nos goûts, car il faut servir avant de se servir. »
Très bien, merci beaucoup Antoine Gerbel pour cet hommage à Jacques Puisat.
C'est très très beau.
Arnaud, vous pleurez une autre disparition. Je vous sens assez musical aujourd'hui. Allez, un petit indice sonore.
Montrez en plume, plume des oiseaux, des animaux.
Mais je ne vous connaissais pas, ce déhanché spectaculaire, Arnaud. Qu'est-ce qui vous prend?
Vous ne savez pas tout de moi.
Zizi Daguin.
C'est ça. Zizi s'est envolé en juillet. Zizi danse avec les anges sur le grand escalier du paradis palatin.
Zizi Jeanmaire, sa gouaille, sa coupe à la garçonne, ses jambes légendaires et son nom trop rigolo. Rendons-lui donc hommage et profitons-en pour saluer bien bas tous les trucs en plumes, aux cuisses et aux poitrines formidables que l'on immole à tour de bras en ces jours festifs.
Je me disais quel était le lien entre Zizi Jeanmaire et notre et le sujet qui nous intéresse, mais si on, même si on avait beaucoup de respect pour cette grande dame du music-hall. D'ailleurs, pour faire un peu de teasing, je crois que vous allez évoquer un autre truc en plumes dans un instant, mais auparavant, il y a un coup de gueule de Dominique Hutin, je crois qu'on peut dire ça comme ça, un coup de gueule contre une boisson qui va réussir quand même, si j'ai bien compris, la performance de nous saouler en contenant très peu d'alcool.
Oui, c'est effectivement le cas, c'est une boisson très très contemporaine qui se trouve être aromatisée. Je vous en cite quelques-unes, c'est curcuma, piment de Cayenne et charbon actif. J'ai aussi concombre, eucalyptus ou fraise des bois.
Je m'attendais à pire, mais...
Bah, vous avez fraise, bois de santal, par exemple, qui est très rigolo. Alors, vous avez des plus sages, vous avez thé noir, par exemple. Donc, j'ai pris Elvira comme cobaye.
Même un cobaye très consentant, moi, ça me dérange pas trop.
Non, mais objectivement,
trop,
ça n'est pas mauvais de
goût. Je suis un peu la gogo qui tombe dans le panneau.
Alors, c'est Hard Seltzer, c'est le nom.
Ah.
Voilà. Ils sont nouveaux venus sur le marché des boissons. Et le marché des boissons, aujourd'hui, c'est ancré autour de deux tendances avec deux idées fortes. La première, c'est l'innovation, d'où les mixages de saveurs. La deuxième force, l'autre axe, c'est la santé. Hein, aujourd'hui, on demande toujours ce qui est, que ce soit faible en glucides, en sucre, en calories, etc. Et donc, ce qui arrive dans nos verres, c'est ce qu'on appelle les RDT, Ready to Drink, les prêts à boire.
Ah oui, d'accord.
Et voilà. Et c'est une armada de nouveaux produits avec, en figure de proue, donc, cette catégorie, les Hard Seltzer. Donc, c'est un raz-de-marée. Attention, c'est un raz-de-marée. À titre d'exemple, aux USA, ils ont déjà capté 15% du marché de la bière. C'est loin d'être anodin, si on traduit en chiffres, c'est une annonce de vente à hauteur de 2,7 milliards de dollars en 6 mois.
Wow.
Ça arrive. Ouvrez vos verres et vos oreilles, ça arrive. Voilà.
La Alors, vague va déferler sur la vieille Europe.
Sauf que quand on regarde un petit peu l'étiquette, qu'est-ce que c'est ? De l'eau gazeuse, aromatisée aux fruits, avec un indice d'alcool relativement faible, 4-6 degrés, c'est pour ça que je l'ai adressé à Elvira. Donc vous avez l'effet de l'alcool, mais avec de l'eau. Alors évidemment, le marché va me donner tort.
Oui.
Donc quand vous enlevez les matières premières, quand je parle de bière, il y a des céréales dedans, d'accord ? Quand vous enlevez ça, quand vous enlevez la culture, il n'y a pas 2000 ans d'histoire, il n'y a pas de terroir comme dans le vin, qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste quoi ? Pas grand-chose. S'il nous reste un peu le marketing, parce que quand même, c'est sans gluten, c'est vegan et c'est non-genré, tu vois, voilà. Donc au final, il reste quoi ? L'idée de s'enivrer avec de l'eau, des levures et des arômes. Et l'alcool pour l'alcool, en général, ça n'annonce jamais de grandes choses. C'est un très mauvais signal envoyé à la société, à la vôtre quand même.
J'avoue que c'est bien balancé.
Oui,
wow.
je trouve que c'est un beau métier quand même. Hein, parce que je ne sais pas quel prix c'est vendu, ça, mais vu ce qu'il y a dedans...
Cher, non
ça, ça dépend. Le spectre est large, ce qu'a bu Elvira...
C'est vendu le prix d'un lourd marketing, j'imagine.
Déjà. Oui, voilà. Ça reste digeste. 3 euros les 33 centilitres, ils peuvent entrer sur le marché facilement.
Ouais, Hard Seltzer. Bon, nous, ça restera... À l'entrée du studio.
Un peu quand même.
Pour cette dernière émission, on vous fait gagner deux exemplaires dont va déguster l'Italie, notre Bible sur la Cucina Italiana coéditée par Marabout et France Inter. Vous connaissez les règles du jeu parce qu'on vous a fait gagner des livres pendant tout le mois de décembre. Les deux premiers auditeurs ou auditrices, on a d'ailleurs remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'auditrices que d'auditeurs pour répondre à nos questions. Eh bien, ceux qui nous envoient la bonne réponse avec leur nom complet et leur adresse postale sur notre mail onvadeguster@radiofrance.com recevront chez eux par la poste, un exemplaire dédicacé dont va déguster l'Italie. Bon, maintenant, il faut répondre à la question très piégeuse que nous pose Elvira.
Dans la recette piémontaise du Vitello Tonnato...
Avec l'accent.
Quel ingrédient donne son nom à la sauce qui condimente les tranches de veau ?
Dans la recette piémontaise du Vitello Tonnato, l'ingrédient qui donne son nom à la sauce qui condimente les tranches de veau, on ne dit rien. Alors, le nom est accepté en français ou en italien.
Ah bon,
ils sont assez proches, mais on ne dit rien. On vous révélera la réponse
toute
dans
la famille d'Antoine est en train de pilonner le standard. Là.
C'est ça. Dans un instant, attention les amis, je vous fais un gros câlin, plein de douceur, dégustation surprise et à l'aveugle d'un nouveau monument sucré qui va vous étonner. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec Théo Gomard à la technique, Margot Page pour la préparation de l'émission et l'animation de notre page internet. Djoubaka s'est occupé de la programmation musicale. Barbara Carlotti avec son nouveau titre, Le Retour. Elle évoque son retour en Corse. Une pensée pour nos amis de l'île de beauté. Joyeuse fête sur France Inter.
Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vois le campanile qu'un jour j'avais laissé un beau matin d'avril. Enfant, j'étais partie, Je reviens après tout pour trouver le repos, mais je suis à genoux aux cloches, taisez-vous. Ne brisez pas mon rêve, cet exilé qui passe a besoin.
On va déguster Dresse, le bilan gourmand de l'année 2020. Et pour ajouter un peu de saveur et de bonne humeur à notre dernière émission de l'année, chers amis, je vous ai apporté une surprise. C'est une bûche de fin d'année. Vous ne savez rien ni de sa composition, ni du pâtissier ou de la pâtissière qui se cache derrière. D'abord, une première question, est-ce que vous aimez ?
Mais c'est bon.
Qui pourrait me décrire les sensations ou à quoi ça ressemble, Elvira ?
Un fond de biscuit, un peu biscuit, enfin génoise ou biscuit de Savoie, un peu.
Très fin.
Une texture un petit peu d'entremets, très lactique.
Ouais.
Un petit biscuit croquant type sablé, ça c'est différentes couches. Et puis un pourtour comme ça, jaune pâle, enfin ivoire jaune pâle. Beaucoup d'acidité, alors il y a un agrume.
Beaucoup d'acidité, il y a un agrume.
Eh oui. Une petite languette glacée. Le cœur de la bûche.
Absolument.
Oh là là.
Mais là aussi, ça répond à l'idée de l'acidité.
Les agrumes jaunes, donc je ne sais pas où on peut partir. Bergamote, on a évoqué. Mais...
Oui, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Mais...
Arnaud, vous aimez ou pas ?
Ah oui, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le pain de Gênes qui sert de sommeul. Oui. Il est formidable. Ce n'est pas si souvent.
Ce n'est pas de la bergamote. Il faut chercher plus acide.
Cédra.
Alors, moi, c'est marrant, quand je l'ai goûté
Bigarade.
Hier, j'aurais dit cédra.
Non, mais c'est un geste de confit, non ?
L'agrume en question, effectivement, il est aussi dans cet état confit. Vous avez raison, Dominique.
Délice.
Ah oui, c'est d'une fraîcheur.
Je valide.
C'est la bûche coup de cœur d'un grand banc d'essai. J'ai envie de dire un banc dessert que nous avons organisé avec mes équipes et notamment les journalistes dégustateurs de notre émission Très Très Bon sur Paris Première. 39 bûches dégustées et notées. Alors, seulement des bûches parisiennes et pour cause. C'était un peu compliqué de faire venir les bûches de toutes les régions de France, même si on sait que il y a beaucoup de talents pâtissiers dans toute la France. Cette bûche est signée par une pâtissière. Elle s'appelle Claire Damon.
Ah, formidable.
La chef pâtissière de l'enseigne des gâteaux et du pain. Quels sont le fruit et les secrets de cette bûche ? Nous avons tendu le micro à Claire Damon.
C'est notre bûche Absolu Citron, à base de citron italien, de Sicile. Donc, qui est composée d'un biscuit amande de Provence, une crème au citron, une mousse au zeste de citron et au jus de citron, et une compotée citron sur laquelle on a travaillé et la chair et le zeste. Moi, j'aime beaucoup les agrumes, le citron en particulier. Et je trouve que c'était un parfum qui s'accorde parfaitement avec un repas de fête qui est un peu lourd. Cette acidité un peu fruitée est parfaite pour clôturer le repas.
Voilà, biscuit à l'amande de Provence, s'il vous plaît. Un citron de Sicile biologique. Et alors, ce citron est en crème acidulée, en confit. Dominique avait raison. et en mousse légère. La bûche citron de Claire Damon, des gâteaux et du pain, 63 boulevard Pasteur Paris 15e et 89 rue du Bac Paris 7e. Et je peux vous dire au passage qu'une autre bûche nous a vraiment laissé bûche bée. Littéralement, c'est l'incroyable bûche au chocolat de Stéphanie Lequellec et son pâtissier Pierre Chirac chez MAM, sa maison de cuisine, 22 rue Fourcroy, Paris 17e. Je crois qu'il y a un autre dessert que vous adorez là-bas.
Il faut un baba au rhum avec une crème fouettée, mais dans la crème, il y a un petit cœur de crème pâtissière. C'est juste la folie.
C'est vrai.
Ah, c'est dingue.
Le baba au rhum, elle fait décidément des prouesses, Stéphanie Lequellec, dans sa nouvelle adresse, MAM. Allez, solution des jeux avec Elvira. Vous posiez quelle question ?
Dans la recette piémontaise du vitello tonnato, quel ingrédient donne son nom à la sauce qui condimente les tranches de veau ?
Tout le monde l'avait autour de ce plateau, évidemment.
Antoine,
la sauce du vitello tonnato. Alors, tous en cœur, c'est le...
C'est quoi ? Le tonnato, c'est le thon.
Le thon, oui.
Tonnant.
Le thon, ils avaient peur de se tromper. Oui, c'est le thon.
À une époque, on appelait ça le vitel tonné.
Voilà, exactement. Le vitel tonné. Ouais. Vitello tonnato, une.
J'allais dire capre.
Recette. Puis il y a aussi des capres.
Il y a une pointe d'anchois aussi.
Il y a une pointe d'anchois. Mais c'est pas l'anchois qui a donné le nom à tonnato.
On est d'accord.
Et les deux gagnants se voient envoyer un mail pour leur confirmer qu'ils ont bien gagné. Ce sera suivi de l'envoi par la poste dont va déguster l'Italie. On boit un coup avec Dominique Hutin.
On va déguster sur France Inter.
Bon, à défaut d'aller à la montagne pour skier, on sait que nos stations sont malheureusement dans un état stationnaire, immobilité totale. Eh bien, on fait une petite exception grâce à Dominique, puisqu'on va dévaler avec vous une piste rouge.
Oui, si vous voulez, voilà. C'est une espèce de coup de cœur collectif pour les vins de Savoie.
Ouais.
Vous l'avez dit, d'ordinaire, les stations de ski sont ouvertes, là, elles sont fermées. Et pendant longtemps, elles ont représenté une espèce de, une espèce de rente de situation pour des vins qui étaient un peu pensés de manière, comment je peux dire ça diplomatiquement, avec une ambition très mesurée, vinifiée un peu façon pilote automatique pour les touristes. Et bon, c'est vrai qu'après tout, le ski, les slaloms, qu'est-ce qui se prête le mieux à faire du zigzag? C'est peut-être le vin. Donc peut-être que ça leur donnait raison. Mais moi, je vais plutôt vous inviter à penser cet instant hiver, montagne, Savoie et vin en mode dépaysement. Puisque mon carnet de vignes de cette semaine va emprunter la piste rouge, c'est-à-dire celle des rouges de Savoie, qui est un pan moins connu que la viticulture savoyarde en blanc d'ordinaire. Alors pourquoi la Savoie ? Simplement parce que ce vignoble atteint aujourd'hui une espèce de sommet qualitatif. Et puis, quand vous allez regarder un petit peu ce casting de vin en termes d'imaginaire, quelle surprise ! Aucune étiquette avec des chamois, pas de croix de Savoie, pas de chalet enneigé, ni des Edelweiss. Donc en fait, tous les colifichets qui avaient rétréci l'idée de la Savoie, l'image de vin de raclette, de vin de fondu, etc. Et ça fait un petit peu figure de nouvel Eldorado du vin, un peu comme le Jura il y a une dizaine d'années. Alors pourquoi rouge ? Certes, on trouve du Pinot, on trouve du Gamay, mais pour mettre en lumière cette fierté locale retrouvée, j'ai choisi de proposer une dégustation de vin construit autour de cépages indigènes. La Mondose, qui entretient des liens familiaux avec la Syrah, bien connue dans le Rhône, le Persan et aussi la Douce Noire. Et puis aujourd'hui, ces efforts sont relayés par une jeune génération, les Laville, les Apfel, les Archer, les Viana. Tout ça est bien dans son époque parce qu'on a des vins qui sont peu portés sur l'alcool, entre 10 et 12 degrés. Donc avec ces vins savoyards, chacun trouvera sa voie. 80 vins rouges sur mon carnet de vignes, les commentaires, les prix, les coordonnées à télécharger grâce au travail d'Anne Audigier que je vous invite à retrouver sur notre page France Inter, on va déguster. Et personne n'a bu son verre pendant que je parlais. Vous buvez parole et personne ne voit les vins de Savoie.
On ose à peine dire qu'on l'a fini.
Ah bon, en je vais refaire les niveaux avec urgence.
Et ça vaut le coup, vous confirmez.
Alors vous goûtez quand même, vous goûtez un Persan du domaine Saint-Germain, voilà. Et vous goûtez aussi une Mondeuse 2007 du domaine Lavie, les deux entre 10 et 12 degrés.
Vous confirmez Antoine Gerbel, cette ascension spectaculaire des vins de Savoie ?
Oui, oui, et puis surtout, on parle enfin de ces vins, non pas, comme Dominique l'a souligné, pour les vacances, mais sont des grands crus de montagne.
Voilà. Très bien, merci pour cet éclairage sur les vins de Savoie avec ce formidable carnet de vignes signé Dominique Hutin à télécharger sur notre site. On passe, si vous le voulez bien, un petit tour de table autour de nos coups de cœur culture avec au menu des lectures nourrissantes et attention, un film éthylique. On commence avec votre coup de cœur pour un roman, Elvira.
Oui, je voulais vous dire un mot de Nature humaine, le roman de Serge Joncourt, qui a obtenu le prix Femina il y a quelques semaines. C'est une longue fresque familiale qui se déroule entre la canicule de l'été 76 et la tempête de 99. Alors je suis en pleine lecture, je dois vous dire, et je suis aussi en pleine émotion. Le livre est chapitré par date, j'en suis au 19 juillet 1986,
d'accord.
Chapitre une date, c'est-à-dire que je suis au milieu du guet. Un peu comme Alexandre, le personnage principal, jeune fermier dans le Lot, confronté à toutes les difficultés que connaît le monde paysan, et qu'il connaissait déjà bien sûr en 86, même si à l'époque on ne faisait pas tellement de films ni de livres à ce sujet. Mm-hmm. C'est un très beau personnage, Alexandre. C'est un peu le fils sacrifié qui est resté quand ses parents ont pris leur retraite et que les trois sœurs sont allées faire leur vie à la ville. C'est pas du tout une élégie de la ruralité, hein, ce roman. Pour Alexandre, comme pour son père avant lui, il s'agit de continuer à vivre du travail de la terre sans tomber dans le piège de la course à la modernité, mais en s'adaptant aux contraintes et à ce que l'époque permet, et aux illusions que l'on se fait aussi. Et parfois alors, on n'a pas le choix. Qui sommes-nous pour juger celles et ceux qui ont cru par exemple que le Roundup était un produit magique, qui agissait puis se volatilisait? La grande question du roman, c'est le divorce entre les humains et la nature. Ce moment où la relation a commencé à cafouiller, à n'être plus évidente. Est-ce que je peux vous en lire un tout petit extrait?
Avec plaisir.
De dialogue. C'est un dialogue entre Alexandre, notre personnage, mm-hmm. et Adrien, un jeune paysan visionnaire, dirions-nous, mm-hmm. décroissant ou anti-progrès, comme le considérait un peu Alexandre à l'époque. C'est Alexandre qui démarre le dialogue. De toute façon, si t'as des limaces ici, à mon avis, c'est parce que t'arroses. Bah, encore heureux que j'arrose. Et bah, arrête d'arroser, comme ça, tu n'auras plus de limaces. Bah oui, mais il y aura plus de fraises non plus. Tout juste. Donc, t'en seras au même point qu'aujourd'hui. Alexandre sentit qu'Adrien prenait tout au premier degré. Il affichait l'air fermé de ceux qui se sentent pris pour des cons. Oh, c'était pour rire. Maintenant, si tu repiques des fraisiers pour ne pas manger de fraises, autant ne pas en planter. Moi, ça me fait pas rire. Tu sais que cette année, ils font des essais de maïs transgénique dans le Lot-et-Garonne? C'est bien par chez toi, non? Pas loin. Ouais, n'empêche que demain, je suis sûre que vous vous y mettrez tous. Plutôt que de se détendre, Adrien embraya sur les semences. De tout temps, les agriculteurs avaient fait ce qu'ils voulaient de leurs graines. Mais depuis que la Cour suprême des États-Unis venait de décréter qu'on pouvait breveter des organismes vivants, les semences étaient cadenassées. Tu te rends compte? On peut même plus ressemer après une récolte. Ce monde est fou. Tu veux pas le voir, mais moi, je le vois.
Waouh, ben...
On est dedans.
Ambiance.
On est dedans, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on est dans le nouveau roman de Serge Joncourt, prix Fémina, Nature humaine,
Nature aux humaine éditions chez Flammarion.
Bravo, merci pour ce coup de cœur, chère Elvira. Le coup de cœur d'Antoine Gerbel, c'est un film. Je vous propose un petit indice sonore.
Afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræk til konstant niveau på en halv promille. Med henblik på indsamling.
Ben. De quelle langue entend-on?
C'est pas du suédois, sinon je reconnaîtrais. C'est du danois, non?
Oui, ouais. Bravo. Bravo, c'est du danois, c'est ça, Antoine?
Oui, tout à fait. Alors, je parle danois couramment depuis que j'ai vu ce magnifique film qui s'appelle Drunk.
Ah, je l'ai pas vu. Qui l'a vu autour de ce
film? Je vais le voir.
Je le regrette.
Ah, il fallait très rapide. Ah, parce qu'on a débouché, on a débouché la bouteille le 14 octobre. On l'a refermé quelques jours après.
Vous l'avez pas vu, vous l'avez bu.
Voilà. Et effectivement, Dominique, c'est bien dit puisque c'est un film qu'on regarde et qu'on boit par tous les pores, par tous les sens. J'ai adoré ce film. Alors, le pitch, vous avez peut-être entendu parler, c'est quatre amis qui décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien, selon laquelle l'homme aurait dès sa naissance un déficit d'alcool dans le sang. Et oui, il nous manque 0,5 g d'alcool dans le sang pour être parfaitement équilibré et supporter les aléas de la vie, être bien en famille, bien élever nos enfants.
Et alors, le globule rosé de Jean Carmet au final.
Exactement. Et ce groupe de professeurs décide de boire en continu pendant leurs heures de travail. Alors vous imaginez les graves conséquences, le film dérape, alors on plonge dans cet univers danois. Je vous rappelle que le Danemark est quand même le pays où taux d'alcoolémie le plus élevé. Hein. Donc ça soulève, ça rigole, mais ça rigole pas toujours et ça rappelle quand même qu'il faut bien évidemment ne jamais plonger dans cette addiction terrible. Alors c'est plein d'alcool, c'est plein de tristesse, mais aussi c'est plein de joie. Et le héros, le magnifique Mads Mikkelsen, qui est prof d'histoire, un peu paumé dans sa vie, alors bien évidemment, il va partir à fond dans cet alcool, il va s'arrêter au bord du précipice, c'est un film qui finit très bien, et qui finit joyeusement. Je vous assure que les salles vont réouvrir, alors il y a plein de magnifiques films, allez voir bien évidemment, mais plongez-vous dans ce film, parce que vous en sortirez pour 2021, vous aurez une pêche comme, et vous allez oublier quoi? 2020.
Drunk, hein.
Drunk, de Thomas Vinterberg.
Thomas Vinterberg, absolument, sorti cette année, mais alors c'est vrai que son potentiel succès a été un peu court-circuité par la crise sanitaire. Espérons avoir l'occasion de le revoir très vite sur nos écrans. C'est vrai que ça donne très envie. Vous aussi, un petit coup de cœur livre, Antoine.
Oui, un petit coup de cœur livre au Cherche Midi. Oui. Denis Pommier, vigneron à Chablis, raconte dans Les Larbes de ma vie son passage en bio. Alors, c'est pas du tout un guide, c'est raconter comment on galère très fortement quand on passe en bio, quand on est vigneron à Chablis. Il nous raconte ses accidents climatiques, mais c'est très joliment raconté. C'est un cœur blessé qui raconte ça, puisque c'est quelqu'un qui a connu dans sa vie beaucoup d'accidents et il se retrouve seul très souvent sur son tracteur. Il pleure sur son tracteur parce que sa vigne a gelé, sa vigne a grêlé. Il sait pas comment il va s'en sortir. Il sait pas comment il va pouvoir transmettre sa vigne à ses enfants. On s'imagine toujours ces vignerons un peu bourguignons dans leur Mercedes rutilante voyageant de Tokyo à New York. Là, quand vous traverserez prochainement une vigne et que vous verrez au loin un vigneron sur son enjambeur, eh ben, je pense que vous aurez une pensée très très forte pour tous ces vignerons qui suent sang et larmes pour faire de bons vins.
Le touchant témoignage d'un vigneron de Chablis, Denis Pommier, aux éditions du Cherche Midi. Vous nous en rappelez le titre ?
Les larmes de ma vigne.
Merci beaucoup Antoine Gerbel. On passe à Dominique Hutin qui a également une lecture à nous conseiller.
Oui, qui sont deux en fait. Il y a d'abord Le Beaujolais Gloire et Déboire de David de Bessonnet, oui, qui est le truc le plus fouillé et abouti qui m'était donné de lire sur ce vignoble. Alors attention, ne vous fiez pas au titre, c'est traversé vraiment par un vrai amour immodéré pour le Beaujolais. Voilà, mmh. Beaujolais Gloire et Déboire. Et puis, vous savez que ça fait une vingtaine d'années que j'essaie d'accompagner un peu la chose cidricole, donc j'avais à cœur d'épauler un petit peu un projet formidable qui s'appelle le Journal du Sommelier, une année consacrée au cidre, qui m'a fait l'honneur d'être parrain, de faire la préface, etc. Donc ça m'a un peu occupé, j'en suis très content. Mais au-delà de la contribution personnelle, il me semble que c'est un livre un petit peu événement, dans le sens où, en général, la littérature sur le sujet, ça oscillait entre absence, voilà, léthargie, et puis une espèce de folklore un petit peu compassé. Or, on a affaire à une boisson qui est extrêmement contemporaine, avec de la créativité, une espèce de creuset assez formidable, où il y a du brut, de l'extra brut, des magnums, des millésimes. Et du coup, il y a un arc de goût avec des cidres, avec des accents aigus, vifs. Et à l'autre bout du spectre, vous avez des cidres qui, eux, sont beaucoup plus opulents. Bref, évidemment, ça vous permet de conduire de nouvelles expériences gastronomiques en termes d'accords. Alors, on peut penser aux huîtres, aux sushis, aux viandes nobles, bon, etc. Mais pourquoi il s'agit d'un geste contemporain ? C'est aussi parce que le cidre répond à des préoccupations environnementales. Mmh. Il est vraiment au plus près du naturel, autant qu'il entretient les identités paysagère. Donc ce bouquin, c'est le bouquin qui parle d'une espèce de boisson un peu événement qui est devenu un véritable succès, sans qu'on puisse désormais imaginer une décrue. Je pense que c'est vraiment ancré dans le paysage. Donc tout ça s'inscrit dans un panorama d'initiatives beaucoup plus large dont je vous ferai part sous peu de temps. Ça s'appelle le Journal du Sommelier. C'est Virginie Thomas et Yana de Lienne, deux jeunes femmes, même, on peut le dire. Et vous trouverez le lien sur notre page On va déguster, puisque Margot Page a mis toutes les informations pour retrouver le livre.
Et le titre est sobre, comme vous.
Oui, comme moi, j'ai une réputation à tenir. Le Journal du Sommelier dévolu au cidre pendant un an.
Voilà, dévolu au cidre pendant un an. Merci beaucoup, Dominique Arnaud. Il y a également un coup de cœur du côté des lectures.
Et oui, je veux vous parler d'un petit livre écrit par un grand philosophe, un grand et jeune philosophe, Baptiste Morisot, un philosophe de terrain plus que de cabinet. Ça s'appelle « Raviver les braises du vivant » et ça a beaucoup à voir avec notre alimentation, même si ça n'en parle guère directement. Baptiste nous invite à une métaphore audacieuse, mais qui fonctionne bien. Considérer le vivant comme un feu constructif et réaliser que, par notre existence même, nous sommes en train de l'étouffer. Et ce qu'il nous préconise, c'est de souffler sur les braises encore un peu vives, là où elles se trouvent, afin de voir de nouveau s'épanouir les foyers de vie un peu partout. Et que ces foyers, dispersés sur nos territoires et entretenus avec soin et respect, soient les garants de notre pérennité sur la planète. C'est très concret, ce n'est pas directif ni pessimiste, c'est une belle écriture et surtout, ce grand petit livre nous aide à considérer tranquillement notre place à tous dans le monde vivant. Quoi de plus important aujourd'hui ? Je vous le demande. Raviver les braises du vivant, Baptiste Morisot, Les domaines du possible chez Actes Sud.
Très bien, c'est une lecture qui donne très envie pour ceux qui ont du temps en ce moment.
Je vous la conseille vraiment.
Eh ben merci beaucoup Arnaud Daguin pour ce conseil. Un mot sur un livre signé, il ne vous a certainement pas échappé, par l'un des chroniqueurs dont va déguster notre pote du potager, Xavier Mathias. On le connaît tous bien et on connaît sa curiosité insatiable pour tout ce qui pousse et qui se mange. On est conscient de son savoir et de son savoir-faire en matière de maraîchage puisqu'il est conférencier, auteur de nombreux livres et formateur pour des écoles réputées. Mais on sait moins qu'en plus de manier la brouette, si j'ose dire, et le micro, Xavier est d'une agilité redoutable avec sa plume. Il vient de signer Le potager d'un frimeur. Toi aussi deviens une star grâce aux légumes. C'est aux éditions Terre Vivante. Et c'est à la fois, difficile. Il est un peu hybride ce livre. Je crois que c'est un mot qui lui plairait pas. Mais en tout cas, c'est à la fois un manuel de jardinage, un beau livre de littérature jardinière, très joliment illustré, et ça relève en même temps aussi de l'essai. Xavier nous raconte avec érudition et un second degré irrésistible comment on peut flamber au potager, puisqu'il paraît que c'est le nouveau sport national, avec des plantes étonnantes, fascinantes, acrobates, colorées, nourricières, ail géant, menthe fraise, huître végétale, plante fromage, sauge cassis, piment volant, des variétés de patates qui épatent. Allez, juste pour le plaisir, je vous lis un très court extrait pour vous indiquer un peu le ton qu'utilise Xavier Mathias. Entre une Rolex, une Ferrari ou des pommes de terre, toutes également propices à une frime de qualité, les dernières ont l'outrecuidance de pouvoir être produites naturellement et de contribuer à maintenir la biodiversité des plantes potagères sans nuire aux ressources d'une malheureuse planète exténuée. Voilà, vous pouvez transformer avec ce livre votre jardin en un véritable cabinet de curiosité potagère. Pour tous les amoureux du jardin, le potager d'un frimeur est vraiment un livre intéressant. Et j'ai tellement été séduit par ce livre d'ailleurs que je l'ai préfacé. Voilà. On va d'ailleurs programmer une émission dans les semaines prochaines avec Xavier sur ces légumes étonnants. 25 € aux éditions Terre Vivante. Et cette maison d'édition défend le vivant, la biodiversité, depuis 40 ans. Joyeux anniversaire, Terre Vivante. C'est une année triste, mais c'est quand même la fête. Alors évoquons une volaille de fête.
France Inter. On va déguster.
Aujourd'hui, les amis, partons à la découverte du Japon. Le Japon, me direz-vous, ce charmant archipel célèbre pour ses geishas. Mais non, voyons, ici, pas question du Japon, mais du chapon.
Ah,
ah, ça vous la coupe, hein? Eh ben, lui aussi. Le chapon. Infortuné volatile, privé de ses virils attributs, sacrifié sur l'autel de notre gourmandise saisonnière, jeune coq, débarrassé de ses roustons et des pensées grillardes qui vont de pair. Gallinacée dodue qui se tape la cloche, à défaut de la poule. Sacré gueuleton, d'ailleurs, qui s'envoie le nuque, du porridge au bon lait, souvent agrémenté en Gascogne de raisins secs trempés à l'armagnac, et dont les arômes envahissant sa chair et son gras magnifique rejailliront bientôt dans l'assiette des gourmands. Je vous propose donc aujourd'hui une recette à la portée de toutes les bourses. Le turlututu. Eh oui, le turlututu, chapon pointu, bien sûr, évidemment.
Voilà, il est en forme.
Alors, disposons sur la plaque à rôtir quelques échalotes et têtes d'ail entières autour de notre chapon et rôtissons-le. Pour un chapon de 3 kilos environ, hein, je préconise volontiers une classique cuisson en 3 temps. Un temps pour dorer, 45 minutes à 180, même 190. Un temps pour cuire le dedans de la bête, c'est une petite heure à 160. Et un temps de repos pour faire le jus, 40 minutes, four éteint et fermé bien sûr. À la fin du second temps de cuisson et pendant que le jus se fait, on retire les échalotes et l'ail de la plaque de cuisson et on en extrait la pulpe confite. Mettez des gants, ça colle. On réserve ça dans un petit bol et on prépare la sauce pointue. Alors une poêle sur feu doux avec une petite cuillère à soupe d'huile, un bel oignon émincé, quelques piments au vinaigre comme des guindillas, des capres et autres cornichons hachés gros. On fait revenir tout ça et on mouille d'un demi-verre de très bon vinaigre, pas trop doux, hein. Éloigner le balsamique, et on réduit ça de moitié, et on éteint le feu. Là, on ajoute la pulpe d'ail et d'échalotes confites, et on y verse l'intégralité du jus du chapon rôti. On mélange bien, et on sert notre chapon sauce à part, escorté d'un riz blanc. Turlututu, chapon pointu, un plat qui en a.
Et la recette est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Un grand merci Arnaud Daguin et si on dégustait du chapon pour combattre cette chape de plomb. Des lectures nourrissantes, de bonnes adresses et dans un instant, attention, la cuvée coup de cœur d'Antoine Gerbel. Oh, Please Don't Make Me Cry de Yann Lahavas. On va déguster, dresse son bilan gourmand de l'année. Ouh, avec le bruit salvateur de la bouteille qui s'ouvre, puisque l'on boit un coup avec Antoine Gerbel.
France Inter, François-Régis Gaudry. On va déguster.
Antoine Gerbel qui nous fait déguster, allez, une cuvée de fête. Antoine Gerbel qui nous fait déguster, allez, une cuvée de fête.
Une cuvée de fête, allez, on remet les compteurs à zéro. Et on remet les compteurs à zéro, on va parler de jeunes. Il faut imaginer qu'en 2020, toute cette jeunesse, bon, quel que soit leur milieu, mais je pense à la jeunesse de la restauration, la jeunesse de la viticulture aussi, voilà, c'est une année, voilà, qu'on voulait se lancer, ouvrir un restaurant, un bar à vin, ou faire son premier millésime, vous imaginez tous la galère que ça a été. Alors là, je vais vous parler d'un jeune vigneron, mais bon, je me fais pas trop de soucis pour lui. Il s'appelle Clément Bartschy. Clément Bartschy, il a une première partie de sa vie dans le Rhône, puisqu'il est aujourd'hui encore, il a sur les épaules toute la vinification de cette grande maison de négoce qui s'appelle Chapoutier.
Oui.
Clément n'a que 35 ans. Clément a fait un DNO, un diplôme d'œnologie à Bordeaux.
Mmh.
Clément s'est formé en même temps au rugby, puisqu'il a joué jusqu'aux portes de la deuxième division à Romans, donc c'est quasiment un professionnel du rugby.
Ouais, ça rigole
et
pas.
En même temps, il a repris un petit bout de vigne du côté de ses parents. On est dans le Bugey. Donc, vous voyez, le Bugey, c'est le sud du Jura, à peu près au même niveau que Dominique. Coucou. On se fait coucou de haut de nos montagnes. C'est un magnifique vignoble qui renaît avec un cru. Oui, un vrai, vrai cru qui s'appelle Manicle. Alors, oui. Manicle, il reste 3 vignerons, 12 hectares, c'est tout petit. Mais c'était quand même la patrie de Briat-Savarin.
Évidemment.
Clément a trouvé une vigne qui existait déjà, qui faisait du vin, avec un vigneron qui faisait parler de lui. C'est du Pinot Noir et du Chardonnay, ce qui est original, hein, parce que le Bugey, vous connaissez sûrement le Cerdon, vous savez, ce vin pétillant sucré.
Ah bah là, vous prenez Dominique par les sentiments. Il nous en a parlé déjà dans cette émission.
Ce magnifique Cerdon qu'on adore boire en début ou en fin de repas. Mais le Cerdon, ce n'est pas du Pinot Noir. Là, sur le Clos Manicle, il y a du Pinot Noir qui vient depuis pas très longtemps, 19e siècle. On m'a raconté que c'était principalement grâce aux voies ferroviaires que les vignerons faisaient des échanges et que le Pinot arrivait là-bas. Mais il a trouvé un cru. Alors là-bas, ils disent un peu avec de la fierté, ils disent c'est un peu notre Romane Conti. Il y a très peu de producteurs. Tout est aujourd'hui en train de basculer en bio. Clément arrive avec un immense savoir-faire sur ce territoire. C'est son premier millésime que je vous ai mis dans votre verre. 2019, vinifié tendrement, pas beaucoup de bois, une infusion au niveau de la macération. C'est son premier millésime. Donc, la première cuvée coûte à peu près 13 euros. Là, sa grande cuvée, elle coûte 18 euros. Il y a très peu de bouteilles. Il va falloir aller sur le site de France Inter, on va déguster. Il y a son email. On lui fait un petit email. On dit, voilà, j'aimerais avoir quelques bouteilles. Ne soyez pas trop exigeant. 6 bouteilles, ça sera déjà très bien. Et vous allez vous régaler. Vous allez toujours, surtout, retrouver ces grands crus Manicle dont la littérature, on va dire, bachique du 19e siècle faisait ses gorges chaudes.
Un grand garçon baraqué, amateur de rugby, qui fait un vin tout en délicatesse, peut-être pas aussi bodybuildé justement que
justement.
Sa carrure de rugbyman.
Exactement, mais c'est un personnage qui va, on va en entendre parler.
Qu'en pense Dominique ? Vous avez trempé les lèvres ?
Non, oui, je souscris, hein, ça entre en résonance avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la Savoie. La différence, c'est que Manicle ne peut pas tabler sur la rente de situation touristique parce qu'il y a un déficit d'image total et complet. Donc, la solution, c'est penser qualité.
Mais on aime ces curiosités dans notre émission. Merci beaucoup Antoine Gerbel. Il y en a une sur le plateau qui s'est décarcassée, j'ai envie de dire comme d'habitude. Elle adore cuisiner. Il faut dire qu'elle a quelques tocs en cuisine. Quand elle découvre quelque chose, une astuce, une technique, un tour de main, elle l'expérimente pendant des semaines, voire des mois.
Et là, je fais la même chose en boucle tout le temps, c'est ça?
Non, au contraire. Et ben non, au contraire.
Elle décline.
Mais vous diversifiez au contraire. Et vous explorez tous les champs culinaires possibles en commençant par un drôle de mariage.
Ben, c'est un mariage qui m'a un peu surprise au départ, c'est le mariage de l'huître avec le kiwi. Et en préparant l'émission, vous m'avez appris quelque chose, François-Régis, c'est que l'huître et le kiwi ont en commun 14 molécules aromatiques.
Oui.
Ce qui a inspiré d'ailleurs ce mariage à un grand chef belge qui s'appelle Sangoun de Gimbre, qui est le chef de l'air du temps.
Exactement, en Belgique.
Et moi j'ignorais tout ça parce que j'ai goûté dans une chambre d'hôte en Dordogne, donc on est loin de la Belgique, des huîtres au château de Montdésir, donc une chambre et table d'hôte à Villefranche-de-Lonchat exactement. Voilà. Des huîtres agrémentées d'un mélange détaillé un peu en julienne, kiwi, avocat, échalotes émincées finement, peu d'échalotes, on a peut-être mis un petit poil de trop.
Ah non, je trouve ça super bon.
Zeste de citron vert, juste sur une huître crue comme ça, avec un petit tour de moulin à poivre à la fin. C'est rien. J'ai un tout petit peu écrasé vaguement avec un pilon le mélange pour que ça devienne un petit peu plus homogène. Mais j'étais très surprise alors que j'aime pas beaucoup les huîtres cuisinées. Je trouve ça assez épatant.
Là, elles sont condimentées.
Elles sont condimentées.
Et je vous avoue que c'est la première fois que j'apprécie les kiwis. Je n'aime pas le
kiwi. Mais moi non plus, j'aime pas tellement.
Et pourtant, on trouve du kiwi avec l'accent du sud-ouest comme vous.
Oui, le fameux kiwi de l'Adour.
Voilà. Tout d'un coup, là, je trouve qu'il est bien à sa place.
Ouais. Ah ouais, ouais.
C'est fou comme l'acidité du kiwi exalte le l'iode de l'huître. Ouais, alors que ça pourrait s'écraser.
Il y a une communauté d'esprit entre les deux. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la petite acidité un peu vive de l'échalote et le gras, la rondeur un peu réconfortante de l'avocat. Franchement, c'est un super condiment. Moi aussi, je suis pas amateur de d'huîtres condimentées. Je les aime vraiment naturelles. Même le jus de citron, je le mets de côté.
Non, mais là, ça marche.
Un tour de poivre. Juste un tour de poivre.
Juste un tour de poivre.
C'est un tour de poivre de Vosti. Et après, j'arrive pas à le dire.
Vosti, périphérie.
Voilà, c'est ça.
On a le droit de dire poivre sauvage de Madagascar. Qu'est-ce qu'on est snob.
Sans oublier le kilo de pain et de beurre salé, quand même.
Oui, évidemment.
Non, très, très belle réussite. Ça va donner, je pense, quelques idées à nos auditeurs pour leur réveillon de la Saint-Sylvestre. À retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Dominique Hutin, qui est en train de finir la dégustation de cette huître, a des choses à nous dire, puisque on sait que partout en France, les restaurateurs se sont retroussés les manches depuis le début de la crise sanitaire pour aider les soignants, les personnes en grande précarité. Tout cela a été évoqué par Elvira pendant de très nombreuses semaines. Dominique, je ne crois pas trahir de secret en disant que vous vivez à Goncoutainville, département de la Manche, dans la péninsule du Cotentin. Et vous nous racontez deux belles façons pour les restaurateurs de se réinventer.
Oui, alors je voudrais d'abord dénoncer un acte assez lâche qui consiste à m'interroger à chaque fois que j'ai la bouche pleine. C'est pas très loyal.
Surtout quand il a un bout de kiwi.
C'est exprès.
Dans le godier.
Non, alors effectivement, plus sérieusement, on a des moyens maintenant de révéler des effets peut-être bénéfiques du confinement qui a permis à certains chefs de prendre un petit peu large. Et, donc, voilà, des métiers qui sont assez prenants, la tête dans le guidon. Et peut-être même se révéler à eux-mêmes. Le premier, c'est Pierre Marion. On est au Pili, à Cherbourg. Donc on est vraiment au bout de la terre, tout là-haut. C'est un fan de Japon, un fan de poisson, il a même embarqué pendant le confinement sur un bateau pour mieux appréhender le travail de la mer, le travail des pêcheurs avec qui il travaille à l'année. Il a donc redirigé une partie de sa cuisine vers les sushis, les sashimi, mais à base de poissons locaux, évidemment, pour être en conformité avec sa conscience. Voilà, il a proposé toute une offre de vente à emporter, crise et Covid oblige. Ça va de 17 à 40 euros, c'est la production maison. Alors, quand on parle avec lui, quand même, Pierre Marion a confessé le fait d'être seul maintenant en cuisine, et c'est un travail de fou, un travail de dingue. C'est une production maison qui est vraiment minute, avec une fraîcheur irréprochable. Donc vous avez des maquis, sèche chorizo, du chou-fleur, feta et œuf de truite. Il y a des choses quand même assez intéressantes, des nigris, barré sarrasin. Bref, tout ça se réinvente. Il y a aussi tout un travail autour des papillotes que vous pouvez prendre chez lui et réchauffer à la maison. Et puis le deuxième, il est à l'autre bout de la Manche, il est en bas, près du Mont-Saint-Michel, à Avranches. C'est un resto qui s'appelle Obione, c'est Sébastien Godefroy qui, lors du premier confinement, s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux. C'est un jeune talent gomillot, donc il n'est pas tout à fait handicapé de la casserole, et il a séduit les réseaux sociaux avec son humeur communicative, et cette visibilité nouvelle lui a permis de se raconter autrement. Ben voilà. Lors du deuxième confinement, il propose lui aussi une vente à emporter. Par exemple, le vendredi soir, c'est homard, bisque de homard, lobster roll. Et là, vous le savez, c'est un petit sandwich avec du homard. Plus un dessert maison. Bon, je pense pas qu'il y a du homard dedans, mais enfin bon, 21 euros. Et les petites entrées. Saumon façon Gravelax, ça c'est pour vous, oui. Elvira. Salade de fenouil pour 8 euros.
Très bien.
Voilà. Donc autant vous dire que là où j'habite, avec ces deux-là, on a un as dans la Manche.
Et ils sont encore du service ces jours-ci, entre Noël et le jour de l'an et pendant les fêtes. Un grand merci Dominique pour ces conseils. Allez, ben on termine par un petit tour de table. J'avais envie de vous poser comme question, à quelques jours de la nouvelle année, et dans la perspective, j'espère, proche de la réouverture de nos restaurants. On sait à quel point les chefs et les restaurateurs ont souffert. S'il y avait une adresse dans laquelle, au moment de déconfiner, vous aimeriez vous réattabler, ce serait quelle adresse ? Elvira.
Alors moi, c'est pas une adresse. Moi, je rêve d'un plat. Je pense que j'en rêve la nuit. C'est le maffé poulet ou le maffé de bœuf. Alors maffé à l'origine, c'est la sauce à l'arachide du Mali.
Qu'est-ce que j'aime.
Mais dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, c'est le nom du plat. Au Sénégal, au Burkina Faso, bah c'est ces morceaux de poulet ou de bœuf comme ça, cuit
longuement avec une sauce à l'arachide.
Longuement avec une sauce mais magnifique, longue en bouche, ronde. Et moi, je l'aime servi avec de l'attiéké, la semoule de manioc un peu fermentée. Et je peux le manger. J'ai plein d'adresses. Je peux le manger aux marmites de Fa, rue Lamartine, Paris 9e, au Paris Bamako, qui a deux adresses, notamment dans le 10e. N'importe quel petit boui-boui de Barbès fera l'affaire d'ailleurs. Et si vous avez, amis auditeurs, de bonnes adresses de restaurants d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique de l'Ouest ailleurs qu'à Paris, nous sommes preneurs pour quand on pourra y retourner.
Très bien, le mafé, spécialité emblématique à base d'arachide qu'on trouve effectivement dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une splendeur. Personnellement, je suis assez fier de la recette que je fais moi-même.
Ouais, il paraît qu'elle est très bonne. Ouais.
Et je la sers avec du sticky rice, avec du riz gluant. Et c'est une splendeur.
On veut des preuves.
Mais quelle bonne idée.
Ça ne va pas tarder, mon cher Nono. Antoine.
Alors, je pourrais vous parler de Lulu Rouget à Nantes.
Oui, magnifique. À Itriche.
De Daniel Baratier à l'Auberge sous le Bois à Annecy.
Ah,
de la précision de ce grand cuisinier très humble, très reconnu, deux étoiles, Christophe Roure au 9e art.
Oui, très bien. Évidemment, qui en aura ça, bientôt trois, à mon avis.
Tout ça, ça me manque. Mais allez, s'il y a un endroit où j'ai envie de me retrouver, parce qu'il y a beaucoup de vignerons, parce que la carte des vins est très belle et que le chef. Moi, pour moi, c'est un zébulon de la cuisine que j'aime énormément. Il s'appelle Jean-Michel Carrette.
Ah, tournu.
Exactement. Et sa femme Amandine s'appelle Au Terrasse. Voilà, voilà un garçon qui avance, qui fait des produits. À chaque fois, je suis surpris de la manière dont il cuisine, tout simplement. Il est dans aucune école. Il, en même temps, c'est un jeune chef. Donc, il s'imprègne de plein de tendances. Il est très bourguignon parce que ses produits, ben voilà, c'est le Barès, c'est la Dombe, c'est voilà, tous ses producteurs sont magiques. Voilà, j'ai envie de me retrouver devant cette petite friture de poisson locale avec une très légère mayonnaise maison.
Vous voilà. M'emmenez un jour au terrasse de Jean-Michel Carrette. Ça fait partie de mes grandes lacunes. Je n'y suis jamais allé, mais je vais bientôt corriger cette erreur. Dominique ?
Moi, c'est plutôt un délit d'initié, au final, puisqu'on est au plein cœur de la baie du Mont-Saint-Michel.
Ah bah, tu m'étonnes.
Voilà, ça s'appelle l'Auberge Sauvage. Nouveau restaurant du chef Thomas Benadi.
Oui.
Ben voilà, le pauvre, il trépigne depuis plusieurs mois maintenant pour ouvrir sa table. Il attend qu'on arrête un peu d'assaisonner la cuisine à la sauce Covid. Alors pour autant, c'est pas du tout un établissement fantôme, pour deux raisons. D'abord, Thomas Benadi, on le connaît. Il a laissé une trace à Paris, vous rappelez, du restaurant Horty, bravo.
Rurodier.
Un bistronomique dans le 9e. Mais voilà, il a quitté la capitale. Il est maintenant au pied d'une des merveilles du monde. Non, elle dira, si vous écoutiez, on parle du Mont-Saint-Michel.
Oui. Hein. Je suis toute oui.
Donc, il a choisi la Manche, et ça tombe bien, parce que son truc à Thomas Benadi, c'est cuisiner local. Alors, souvent, ça peut sonner un peu creux dans la bouche de pas mal de chefs, sauf que lui, dans la Manche, il est dans un département où 73% de la surface agricole est dévolue à l'agriculture. Voilà.
L'Auberge Sauvage de Thomas Benadi.
À Cervon. Voilà. Vous connaissez le code postal, Antoine ?
Ouais, non, mais moi, je suis plutôt 35.
50 et
j'ignore les 50.
50, ouais.
50.
La baie
du Mont-Saint-Michel.
On a laissé gentiment Normand, on fait les c'est quelque chose.
On ira avec vous, cher Dominique. Et nous terminons notre tour de table par notre terminus, qui est Paris, je crois, hein, avec Arnaud Daguin.
Veplaire.
Ah.
Veplaire, en 1892, tu as ouvert. Et en 2020, tu as fermé. Toi qui as traversé sur une guibole deux guerres mondiales et la grippe espagnole, dis quand rouvriras-tu, Veplaire, ta choucroute, tes fruits de mer, tes fresques art déco, ton prix littéraire, troquet favori d'Apollinaire, de Picasso, d'Henri Miller et du trio, moi aussi je te préfère. Sans toi, ma brasserie, Paris n'est plus Paris. Veplaire, place de Clichy, Paris 18e, Veplaire revient, Veplaire. Je t'aime.
La brasserie Veplaire, place de Clichy, quand rouvrira le Veplaire? C'est la question que lance Arnaud Daguin, peut-être en 2021?
J'espère.
Et je salue également les chroniqueurs et les chroniqueuses qui m'ont accompagné tout au long de l'année 2020. Et on sait voilà que nos programmes ont été bouleversés. L'émission a aussi changé pendant le premier confinement. Déborah Dupont, Esther El Payani, Jérôme Gagnès, Éric Morin, Xavier Mathias, Alessandra Pierini et Laurent Delmas. Avec quelques jours d'avance, nous vous adressons, amis auditeurs, tous nos voeux pour une excellente année 2021 pleine de couleurs et de saveurs. Ça nous changera peut-être de 2020. On trinque, les amis ?
À la vôtre.
À la vôtre.
À la vôtre. À tous.
Santé. À la vôtre. Belle année à tous. Merci aussi à Margot Page de nous avoir aidé à préparer l'émission pendant des mois. Et également l'animation de notre page internet. L'année 2021 nous promet, j'espère, plein de joyeusetés culinaires et gastronomiques. Au sommaire de notre première émission de l'année dimanche prochain, le curry d'Inde, du Japon, de Thaïlande, plein feu sur cette spécialité mythique du continent asiatique. Salut les copains, à dimanche prochain, si vous avez encore faim.
Salut tout le monde, bonne année.
Au revoir.
Ciao.